Le oui a besoin du débat pour gagner.
Mais le seul truc qui t'intéresse, c'est toi, toi et toi, tes études, ta carrière, ton poste au ministère, la con.
Nous sommes une démocratie, c'est le peuple qui va décider.
Attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
Be you, be proud of you, because you can be.
Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris.
Do what we want.
Garantie sans candidat, mais avec des invités qui ont des idées.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent. Allez, donnez les temps.
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
Bonsoir et bienvenue dans Place publique, l'émission politique de Radio Campus Paris. À 43 petits jours du premier tour des élections présidentielles, il est temps de se pencher sur la première préoccupation des Français, le travail. Et oui, vaste sujet, aux enjeux cette fois-ci pas du tout. Du tout fictif. Alors que faire contre le chômage de masse? Se dirige-t-on vraiment vers la fin du travail? L'innovation menace-t-elle vraiment l'emploi? Comment protéger les travailleurs à l'heure de l'ubérisation? Enfin, faut-il travailler moins, travailler plus ou travailler mieux? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Valentin nous parlera de la théorie sur la raréfaction du travail et Camille nous rejoindra pour évoquer le bien-être au boulot.
J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien.
Place publique, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Ils sont nos invités ce soir pour parler de travail dans Place publique. Philippe Martinez, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes syndicaliste, secrétaire général de la CGD, donc la Confédération Générale du Travail. Avec nous également un juriste engagé, Emmanuel Dauquès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste du droit du travail, membre du GRPAC, donc le groupe pour un autre code du travail. Donc vous publiez le 22 mars prochain une proposition de code du travail sur laquelle on reviendra évidemment. Et enfin, Erwan Ménac, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste économique et social à Politis. Alors, c'est un concours de circonstances qu'on n'assume pas trop, mais oui, le plateau ce soir est pas du tout paritaire, mais heureusement, une équipe d'intervieweuses chevronnées m'accompagne. Héloïse, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc le travail, Philippe Martinez, comment vous qualifierez les 5 années qui viennent de s'écouler, le mandat passé de François Hollande, ces 5 années de lutte sociale, de progrès, des deux pour les travailleurs?
On pourrait les qualifier tout simplement de beaucoup de promesses et peu de promesses tenues, parce que les conditions des salariés, de la jeunesse, ont continué à se dégrader malgré beaucoup de déclarations préalables à l'élection. Donc,
je peux juste rappeler que vous aviez appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, donc pour François Hollande en 2012.
On avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. C'est le problème de la Constitution française, comme ils sont plus que deux au second tour. Quand on appelle à voter contre l'un, tout le monde fait un raccourci.
Par ricochet, on appelle à voter
contre. Voilà.
Emmanuel Dauquès, 5 ans de hollandisme en matière de droit du travail, c'est quoi?
Beaucoup de lois, beaucoup de complexité supplémentaire. On a un discours de simplification qui a fait florès pendant toutes les 5 années et en réalité une complexification qui n'a pas cessé. Des lois qui ont détricoté encore plus le code du travail qui était déjà assez abîmé et qui n'a cessé d'être abîmé davantage.
Et on va mener avec la même question que je pose aux journalistes cette fois-ci.
Moi, je dirais que malheureusement, ils n'ont pas su incarner une alternative au modèle qui est proposé depuis 30 ans et que même si peut-être que les offensives étaient un petit peu moins brutales que ce qu'on risque d'avoir en cas d'alternance, la direction est la même et le résultat, malheureusement, est le même puisque les mêmes causes produisent
déception
les mêmes effets.
Ou vous attendez rien de...
Nous, on avait titré la semaine du vote « Il est urgent d'espérer » avec un double sens. Où en fait, dans ce titre-là, on mettait clairement qu'on n'espérait rien, mais qu'on avait un laps de temps de très très court pour pouvoir s'engouffrer dans cette brèche. Et on savait très bien qu'il fallait rien espérer de ce pouvoir socialiste qui a été élu sur un beau discours, mais dont on connaît la cabine, donc on ne se faisait pas trop d'illusions.
Alors pour parler de travail, hein, c'est ce qui nous réunit ce soir, on va tout d'abord commencer par une théorie que défend le candidat socialiste Benoît Hamon, et Valentin est là ce soir pour en parler. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Pour cette émission de Place publique, on va tenter de parler de la théorie sur la fin du travail et des différentes réactions politiques qu'elle provoque. En effet, depuis quelques mois, l'idée qui consiste à dire qu'on se dirige vers la fin du travail s'est invitée dans le débat politique français. Valentin, est-il possible d'en savoir un peu plus sur cette hypothèse ?
Tout à fait. La théorie de la fin du travail est tirée d'une analyse dans un ouvrage « La fin du travail » écrit en 1995 par Jeremy Rifkin, un essayiste américain. Dans cet ouvrage, Jeremy Rifkin spécule que les innovations technologiques nous mèneront vers un monde sans travailleurs. Cela entraînerait de nouveaux bouleversements sociaux comme une flambée du chômage et un risque d'appauvrissement qui rendront le monde plus dangereux. Pour éviter ce scénario, Jérémy Rifkin propose un nouveau contrat social fondé sur une économie non marchand et une réduction du temps de travail. Alors c'est vrai que la tendance à une réduction du temps de travail peut se remarquer dans les pays occidentaux depuis la fin du 19e siècle avec les évolutions technologiques et sociales. Du coup, certains, à la gauche de l'échiquier politique, pensent que le travail se faisant rare, il faut travailler moins pour pouvoir le partager. Mais cette année, un des candidats aux élections présidentielles va un peu plus loin dans cette idée. Benoît Hamon, le candidat socialiste, voudrait installer un revenu universel pour combler la précarité causée par ce qu'il pense être la raréfaction du travail.
Mais raréfaction du travail ne veut pas dire fin du travail.
Exactement. Sur son site de campagne, Benoît Hamon ne parle pas de la fin du travail, mais de sa raréfaction. Cependant, il est vrai que l'idée d'une fin de travail et celle de sa raréfaction sont souvent mélangées. Mais même avec cette distinction, le débat qui se trouve derrière est la place que devrait avoir le travail dans la société. Certains candidats à l'élection présidentielle classés à gauche donnent le travail une place centrale dans la société. Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, se présente comme le candidat du travail et souhaite réduire le chômage de 7% pour 2022. Selon lui, ce serait le travail qui nous donnerait une place dans la société et une dignité. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, ne croit pas en la raréfaction du travail à cause des évolutions numériques. Dans son livre, L'avenir en commun, il écrit « Le progrès humain est la clé du progrès écologique et de l'activité économique ». Cependant, il défend l'idée du plein emploi avec le partage du temps de travail et la semaine de 32 heures. À l'extrême gauche aussi, l'idée d'une raréfaction du travail laisse perplexe. Le nouveau parti anticapitaliste, représenté par Philippe Poutou pour ses élections présidentielles, décrit sur son site internet cette théorie comme un chantage des, je cite, ultralibéraux pour forcer les salariés à renoncer à leurs droits.
Et pour les candidats classés à droite ?
Eh bien, à droite, l'idée d'une raréfaction du travail ne prend pas non plus. François Fillon, le candidat des Républicains, veut abandonner les 35 heures en supprimant la raréfaction. Référence à une durée légale du travail pour viser le plein emploi. Marine Le Pen, la candidate du Front National, veut appliquer une priorité nationale à l'embauche et réindustrialiser la France en associant l'industrie et l'État stratège. Dans les deux cas, le but est de mettre le travail au cœur de la société.
Donc, dans l'ensemble, la théorie de la raréfaction du travail ne semble pas être très appréciée dans le milieu politique français.
En effet, de droite à gauche de l'échiquier politique, beaucoup ne partagent pas l'idée d'une raréfaction et encore moins la fin du travail. Cependant, le revenu universel de Benoît Hamon fait émerger la question de la place du travail dans la société. La division se trouve donc entre ceux qui pensent que plus on travaille, plus on peut créer des emplois et ceux qui pensent qu'il est possible de réduire le temps de travail en le partageant.
Merci Valentin. Et Louise ?
Alors on vient de le dire, le candidat Hamon évoque la fin du travail pour justifier la nécessité d'un revenu universel. Alors y a-t-il réellement une fin du travail ? Emmanuel Decaisse, est-ce que vous pouvez nous définir précisément d'abord ce que désigne ce terme « travail » ?
Le travail, c'est toutes sortes d'activités. En réalité, on distingue deux sortes d'activités, les activités qui sont rémunérées et les activités qui ne sont pas rémunérées. Mais ce ne sont pas des différences de nature. Les activités non rémunérées peuvent être de même nature que les activités rémunérées. Donc, c'est, vous voyez, le travail gratuit, le travail payé, ce sont des choses comme ça. En revanche, une chose est très... Donc, les activités ne vont pas disparaître. Les êtres humains s'activent et ils vont toujours avoir des activités. La question qui se pose ici, c'est celle de la diminution d'un certain travail productif, d'un certain travail de type particulier. Et ce qui était un petit peu mélangé dans les discours qu'on a entendus, c'était deux choses différentes. On a une diminution des besoins de travail productif. Et cette diminution-là devrait être indexée sur une baisse du temps de travail en ce sens-là. Mais de l'autre côté, on assimile ça à une espèce de mépris pour le travail. Et ça, c'est totalement faux. Les deux choses sont complètement différentes. On peut considérer que le travail est quelque chose qui a une grande valeur, qu'il faut protéger, qu'il faut justement valoriser au point qu'il faut le partager et que tous puissent accéder à l'emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas dire du mal du travail que de vouloir partager le travail.
GT, on n'y croit pas trop à la raréfaction du travail.
Je pense que les hommes politiques, et les femmes d'ailleurs politiques, confondent la question de l'emploi à la question du travail. C'est pas la même chose. Le travail, c'est pouvoir analyser des situations de personnes qui sont en poste de travail. Et on vit un paradoxe. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui meurent parce qu'ils ont trop de travail et des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de travail. Donc il faut analyser la cause des raisons de cette souffrance au travail, et il y en a beaucoup. Il y a des problèmes d'organisation du travail, il y a, contrairement à ce qu'on dit, la moyenne du temps de travail en France, même si la loi est de 35 heures, elle est pour les salariés à temps plein de plus de 39 heures, et pour les cadres, 44 heures. Et dans ce décompte-là, on ne compte pas ce qu'on appelle le travail masqué, c'est-à-dire ceux qui répondent à leur mail le samedi et le dimanche. Donc le travail... il est important. Il y a beaucoup de travail déjà dans l'état actuel. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que, évidemment, c'est le sens de l'histoire, que ce travail soit encore mieux partagé. C'est pour ça qu'il faut réduire le temps de travail. Donc, il y a prendre en compte des évolutions technologiques qui permettent de mieux travailler. Il y a réfléchir sur l'organisation du travail et le sens du travail. Ça permet aussi de mieux travailler. Et puis, il faut réduire le temps de travail parce que du travail, il y en a pour tout le monde, quel que soit le type d'activité d'ailleurs. Parce que des fois, je vois un débat qui s'installe entre, par exemple, la vieille industrie et l'industrie du futur. Je connais des tas d'endroits qu'on qualifie de vieille industrie, qui a beaucoup d'avenir. Et puis, on pourrait prendre le vélo, par exemple. C'est une vieille industrie, le vélo. Hein. Ça fait longtemps que les vélos existent. Et puis, les vélos continuent à se moderniser. Il faut encore des gens, des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens pour fabriquer et penser les vélos. Voilà. Donc, le débat, le travail, c'est essentiel dans la vie. Demander à tous ceux qui n'en ont pas ce qu'ils pensent du travail, ils en cherchent. Mais il faut le partager parce qu'il faut trouver un équilibre entre le temps qu'on passe au travail et le temps pour faire autre chose, se cultiver, s'instruire. Il y a plein de choses à faire quand on ne travaille pas.
Et Juan Menac, la question là qui se pose, c'est surtout une répartition du travail. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, évidemment. Après, moi, je trouve, j'ai un regard un peu extérieur, hein, parce que moi, je suis comme vous, un peu journaliste. Mais on a bossé récemment sur la question du salariat. On a pris le mot salariat.
Et c'est autre chose.
Je trouve que oui, c'est un débat qui est compliqué, qui est assez fouillé.
Oui, au niveau des termes, on a emploi, on a travail, ouais. On a salariat,
travailleur.
Parce que le salariat est une forme d'emploi. L'emploi est un travail, mais tout, enfin, ça s'imbrique, mais c'est pas la même chose. Et je trouve que du coup. C'est un débat qui est compliqué à aborder et qui est facile un peu à instrumentaliser aussi pour ceux qui voudraient lui faire dire à leurs adversaires ce qu'ils veulent leur faire dire, parce que chacun parle de son point de vue, défend ses causes. On a des philosophes qui sont en surplomb, des économistes qui défendent le chiffrage, des politiques qui défendent un projet de société une démarche électoraliste. Et donc tout se mélange, mais là-dedans, il y a des choses extrêmement intéressantes qui posent des questions fondamentales. Pour la gauche, bien sûr, mais pour tout le monde.
Mais au fond, alors qu'on soit d'accord ou pas avec Benoît Hamon, qu'on modère un peu ses propos, l'exploit de Benoît Hamon aujourd'hui, c'est pas d'avoir mis le travail au centre du débat. Parce qu'avec Valls, on aurait eu l'identité nationale.
En tout cas, certains parlent du travail, c'est important de parler du travail. Et ce n'est pas qu'une question de définition, c'est une question de bien préciser de quoi on parle. Ceci dit, Benoît Hamon considère qu'il n'y a plus de travail pour tout le monde. Et donc c'est l'amorce de la fin du travail, et c'est pour ça que c'est important de préciser. Et moi, j'ai souvent invité, d'ailleurs ils ont râlé tous, je les ai souvent invités à venir.
Qui a râlé ?
Les candidats. Je leur ai dit, venez voir le travail, on n'en parle pas.
Ils font pas des sorties médiatiques dans les usines pour
Savez, ils rentrent, ils vont dans le bureau du directeur, ils mettent un casque sur la tête et puis ils prennent un micro et puis ils s'adressent à un personnel.
Quand ils sont face à des vrais gens, souvent ça devient un peu chaud.
Oui, mais à force de pas fréquenter les vrais gens, quand ils se trouvent en face des vrais gens, les vrais gens râlent parce qu'ils disent mais vous venez nous voir parce qu'il y a des élections, donc il faut aller voir le travail, il faut aller voir les gens travailler. Et je suis d'accord pour qu'on précise bien les choses. Le salariat, c'est autre chose. Et c'est un autre débat. Et on peut en discuter, d'ailleurs. Parce que le salariat, c'est dire la fin du salariat ou une nouvelle forme de salariat, c'est vouloir casser, mais là, comme il y a un éminent juriste en face de moi, c'est vouloir casser des règles collectives et casser le code du travail en disant « mais il n'y a plus besoin de ça, puisque chacun a une conception du travail différente, et donc on est travailleur indépendant, travailleur... »
Auto-entrepreneur,
il y a des tas de formes comme ça, et tout nous montre, et je finirai là-dessus pour l'instant, c'est que tous ceux qui ont essayé ça et qu'on nous a inventé comme l'avenir, je pense aux salariés d'Uber, aux salariés, vous savez, les livreurs à vélo, en ce moment, ils ne sont pas contents.
Ah ben non.
Parce qu'ils veulent quoi ? Des garanties collectives. Donc un code du travail, des conventions collectives. Et d'ailleurs, on vient de créer un syndicat CGT chez ses salariés. Et ils vont déjà manifester la semaine prochaine, vous voyez.
Pour l'instant, j'avais quand même bien fait mon travail. C'était ma question suivante. On parle d'emploi ou de travail parce que c'est pas la même chose. Donc vous avez répondu à cette question, Philippe Martinez. Emmanuel Decaisse, juridiquement, législativement, est-ce que définir tout ça, c'est important ? Remettre tout ça dans des cadres pour pouvoir protéger certains, pour pouvoir différencier les différents types de travail, d'emploi. Est-ce que c'est important, vous, en tant que juriste ?
il est très important, évidemment, d'avoir un certain nombre de règles. Si on supprime les règles qui à la fois définissent les situations des personnes et qui définissent surtout les situations dans lesquelles les personnes ont besoin de protection, évidemment, on arrive dans une espèce de chaos qui peut être tout à fait problématique. Donc, bien entendu, on a besoin de règles, on a besoin de définitions, on a besoin d'un cadre. Vous savez, on nous dit qu'on n'a pas besoin de droit du travail parfois, ou qu'on a de trop de droit du travail. Il faut bien comprendre que le droit du travail, c'est la charte de vie de 70% pour le droit du travail.
Et vous êtes un peu d'accord avec ça ?
De la population active.
Dire qu'il y a un peu, enfin, le code du travail est bien trop lourd, bien trop illisible, il y a trop.
Ah oui, mais ça c'est tout à fait différent. Ah, oui. Le code du travail actuel est épouvantable. Je vous assure que personne ne peut arriver à le lire en entier.
Je vous crois.
Mais même
on s'est
réunis à 20 universitaires pour essayer de faire quelque chose de plus simple. Et à nous 20, aucun d'entre nous n'avait lu l'entièreté de la partie législative du Code du Travail. Et même à nous 20, on n'avait même pas une lecture complète de cette partie-là.
C'est honnête de le dire, vous le dites hein, dans votre introduction. Oui. C'est assez honnête de votre part de dire on ne maîtrise pas notre
vous
sujet de travail.
Si vous mettez 20 universitaires qui ont passé leur vie à étudier le droit du travail, qui ne connaissent toujours pas le Code du Travail et que vous demandez aux personnes de réclamer leurs droits ou d'exécuter les règles et qu'elles ne peuvent pas connaître, on est dans une situation qui est complètement ubuesque. Il faut simplifier. Mais attention, il ne faut pas mélanger simplifier et détruire.
On y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais c'est quand même pas une réalité, l'innovation, la robotisation, tout ça. L'OCDE parle de 30% d'emplois menacés par l'automatisation. On parle aussi de 10%, il y a des chiffres qui sont assez contradictoires, différents, mais c'est une réalité. Le monde du travail est en pleine mutation. Et Erwan Ménac, est-ce que vous le voyez, vous, quand vous allez rencontrer les travailleurs pour vos reportages ?
Ouais, évidemment. Puis même, je pense qu'on le ressent tous. Il y a une espèce de vertige quand on entend parler d'intelligence artificielle, quand on voit les applications, l'usage qu'on a de nos téléphones. On n'y pensait pas il y a même 3 ans, 4 ans. Et je pense que ça a été la grosse force de Benoît Hamon, c'est avec cette idée. Personne ne sait trop ce que ça veut dire. Bon, maintenant, ça a été précisé. On sait que c'est pas le revenu universel.
Il pas du tout universel. Hein.
Il a réussi. Bon, déjà tout le débat tourne autour de lui. On sait qu'en politique, quand on parle de vous, vous êtes dans de la scène, vous êtes forcément bénéficiaire. Mais en plus, il répondait à cette espèce d'intuition généralisée qu'on va dans le mur. Et il arrivait avec une solution nouvelle, qui avait l'air nouvelle parce qu'elle n'est pas du tout nouvelle, mais rafraîchissante en tout cas pour le débat. Je trouve que c'est une bonne nouvelle du point de vue du débat intellectuel. Par contre, le gros risque, c'est que ça cache la vraie discussion, la discussion qui, elle, est urgente, qui est le mal-être au travail, qui est la souffrance au travail et le malaise autour du salariat.
Justement, avec les nouvelles technologies, on a beaucoup de burn-out, on a parlé d'une loi de... Pardon.
Quelle loi ?
Pour reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle.
Voilà, ça, c'est Benoît Hamon, c'est une proposition de Benoît Hamon.
Est-ce que, justement, par rapport à ces nouvelles technologies, il va falloir changer la législation ? Est-ce que c'est pas urgent de changer la législation pour s'adapter à tout ça, justement ?
Oui, je reprends. Oui, on a bien sûr des tas d'adaptations qui doivent être faites. En même temps, on a aussi des modèles qui viennent de l'histoire, vous savez. Oui. Par exemple, on nous dit actuellement, avec les nouvelles technologies, les gens travaillent chez eux, et donc c'est très difficile, par exemple, de connaître exactement le temps de travail qu'ils mettent sur des tâches qui leur sont données. Oui. En réalité, on avait déjà ce problème-là pour le travailleur à domicile qui n'était pas contrôlé et qui fabriquait des chemises. Et on ne savait pas combien de temps non plus il fallait faire pour une chemise, et il fallait quand même le payer à l'heure. On est arrivé à résoudre le problème pour le travailleur à domicile, et on peut aussi arriver à résoudre le problème, y compris avec ces nouvelles technologies. Donc en réalité, on a des nouvelles difficultés, sans aucun doute, mais on a aussi des leçons de l'histoire et on a aussi des possibilités de découvrir de nouvelles solutions face à nos nouveaux problèmes.
Je reviens un peu en arrière, mais je voudrais la réaction de Philippe Martinez sur la raréfaction du travail et les chiffres de l'OCDE. 30% d'emplois menacés en France.
Écoutez, il y a eu tellement de chiffres, on a commencé à 47%. Et les chiffres, oui, certains ont commencé en disant pratiquement la moitié des emplois vont être détruits à cause de ces évolutions technologiques. Et pas révolution, parce que le numérique, vous en servez, on s'en sert tous déjà. Hein. Et puis on est tombé à 7%.
Y a des 7%, quel chiffre ?
De 7% d'emplois.
Selon quelle étude ?
Je ne me souviens plus, mais enfin, c'est pour vous donner la fourchette.
D'accord.
Donc là, il y a besoin de se caler. En tout cas, ce que ça montre, c'est que premièrement, on peut améliorer les conditions de travail en faisant évoluer les technologies. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des évolutions technologiques. Sauf qu'à chaque évolution technologique, on en profite pour exclure des gens du travail et faire travailler plus ceux qui restent au travail. Ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, est-ce que tout doit passer au numérique ? On a évoqué, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les hôtesses de caisse, les caissières. Mmh. Vous vous rendez compte, on nous vend un truc, c'est admirable.
On a de plus en plus de machines quand on va faire nos courses.
Non, on nous vend un truc formidable. C'est-à-dire que non seulement vous allez payer vos courses, mais en plus vous allez bosser pour l'entreprise dans laquelle vous venez faire vos courses, puisque c'est vous qui remplacez l'hôtesse de caisse. C'est-à-dire que c'est vachement bénéfique pour le... Ce que je veux dire, c'est...
Par contre, Philippe Martinez, par exemple, le travail d'hôtesse de caisse est très pénible. C'est-à-dire qu'il soit remplacé
donc,
au fond...
C'est ça qu'il faut, donc, c'est ça qu'il faut régler. Pourquoi discuter avec... elles n'ont pas le temps de discuter, malheureusement.
Bah,
mais discuter avec elles. On leur impose des cadences. Pourquoi on n'assouplit pas, en multipliant le nombre de caisses, le travail? Et là, on pourra discuter, comme ça se faisait dans le temps, parce qu'il faut... si le numérique... ça supprime le lien social qu'il y a au travail, eh ben, il faut se passer de numérique. Et moi, je considère que si ces évolutions technologiques, elles ne servent qu'à augmenter les profits des entreprises, et là, je vous parle de très grandes entreprises, vous avez vu la une d'un journal ce matin, les 40 plus grandes entreprises, les Échos, c'est un journal très proche de la CGT, vous vérifierez.
Pas du tout, on précise pour les auditeurs quand même qu'ils ne
non, c'était pas une blague. Les 40 plus grandes entreprises françaises ont dégagé 75 milliards de bénéfices. Et ben, le numérique, si c'est pour augmenter ses bénéfices, et c'est ce que propose ce genre d'entreprise, et ben ça va pas. Il faut soulager le travail des hôtesses de caisse en multipliant le nombre de caisses, en réduisant leur cadence, en réduisant leur temps de travail. Alors, pour certaines, il faut l'augmenter parce qu'elles, comme elles travaillent à temps partiel...
Surtout les femmes, d'ailleurs.
Principalement les femmes, vous avez raison de le préciser. Pour certaines femmes, 32 heures... C'est le bon chiffre pour travailler plus et gagner plus, vous voyez. Donc
32 heures, c'est votre proposition, hein, je précise que c'est ce que défend la CGT, entre autres,
et donc voilà, donc c'est quelle utilisation des technologies. Et dans certains travaux, évidemment, ça va soulager. Il y a aussi une mutation, il va y avoir une mutation des qualifications demandées, parce que des évolutions technologiques, c'est des évolutions de qualifications, de métiers. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais partir du principe que à cause d'une évolution technologique, tout le monde va souffrir, et donc accepter des sacrifices, y compris en matière de protection des règles du travail, c'est absolument scandaleux.
Donc selon vous, c'est là où on répartit la valeur ajoutée. Emmanuel Decaisse, allez-y.
Oui, alors je voudrais quand même prendre un petit peu aussi le point de vue inverse. Moi, je viens d'un univers un peu imaginaire dans lequel l'arrivée des technologies, l'arrivée de la robotisation, l'arrivée du numérique, tout ça, c'est formidable. C'est formidable parce que ça
C'est un
univers de pensée, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Et effectivement, cette robotisation, ça peut quand même nous dégager d'un certain nombre de tâches humaines extrêmement pénibles. Et si on peut ne plus avoir à les faire, c'est quand même une très bonne nouvelle, excellente nouvelle, qui ne l'est qu'à la condition que ce soit indexé sur la possibilité d'avoir un temps libre plus vaste, vous comprenez. Si c'est une robotisation excluante qui met les êtres humains de côté et qui sont en quelque sorte exclus puisque privés de travail et qui sont mis au rebut de la société, on est dans un système cataclysmique. En revanche, vous avez un système qui est absolument fascinant et merveilleux si on arrive à se répartir le travail qui reste, et particulièrement le travail pénible. Le travail pénible, vous savez, si on n'en fait que 16 heures par mois ou par semaine, je veux dire, ça suffit bien puisqu'il est pénible. Et on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Donc partageons-nous le travail pénible grâce au progrès de la robotisation, ça sera très bien.
Et Louis, justement, le plus risque, est-ce que c'est pas qu'il y a un clivage entre des gens qui sont très qualifiés, qui vont pouvoir s'adapter à ces changements et accéder aux métiers où ils vont décider sur le numérique, et les gens qui vont le subir, qui vont pas pouvoir s'adapter et qui, parce qu'ils faisaient des tâches pratiques, ne vont pas pouvoir...
Et c'est là qu'on ne va pas assez loin dans l'idée du partage du temps de travail. On a toutes sortes de tâches qui existent. Bien sûr, il y a des tâches technologiques, des tâches qui sont plus qualifiées, des personnes qui ne bénéficient pas de ces qualifications ou qui demanderaient de longues formations, donc c'est difficile. Et on pourrait se dire, tiens, les personnes qui ont peu de qualifications vont être exclues, elles vont être mises au banc, etc. Mais il existe et il restera de très nombreuses tâches peu qualifiées et difficiles, y compris pour des personnes peu qualifiées. Il suffit que ces tâches-là soient réparties. On parle parfois de 32 heures, c'est très bien 32 heures, mais en réalité, on peut penser beaucoup plus loin et imaginer que sur certaines tâches pénibles, on pourrait arriver à des réductions bien plus importantes du temps de travail afin que tout le monde ait un emploi, y compris avec des qualifications faibles. Et ce n'est pas du tout inenvisageable, ce n'est inenvisageable que pour les personnes qui veulent, les employeurs, concentrer le travail entre très peu de personnes. Vous savez pourquoi ils le veulent? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire de la gestion des ressources humaines avec 4 personnes qu'avec 8 personnes. Et donc, ils préfèrent avoir peu de salariés qui travaillent beaucoup que beaucoup de salariés qui travaillent peu. Ils vont dans ce sens-là, mais c'est une catastrophe sociale.
C'est une question de coût du travail. Erwan Manac, ça fait rire Philippe Martinez.
Je considère que c'est un gros mot, le coût du travail. C'est pour ça
pourquoi c'est un gros mot, le coût du travail?
Parce que le travail, ce n'est pas le travail qui coûte, c'est le capital. Je viens de vous expliquer que 40 grandes entreprises viennent de faire 75 milliards de bénéfices. Les actionnaires, l'année dernière, ont touché 55 milliards de dividendes. Ça veut dire que c'est eux qui coûtent cher. Parce qu'eux, ils gagnent de l'argent sans travailler. Ils gagnent de l'argent sur le travail des autres. est-ce que, et puis il faut remettre les choses à leur place, est-ce qu'on considère que quelqu'un qui gagne 1100 euros par mois, c'est à peu près le SMIC net, il a de quoi vivre? Vous voyez, moi je pense qu'il faut remettre les choses, il faut toujours partir de la vraie vie, parce que sinon c'est des gens qui gagnent des fortunes, qui nous expliquent que quand on est au SMIC, on gagne trop et il faut alléger des cotisations sociales, faut avoir des...
Mais ces personnes qui disent ça, c'est quand même les personnes, je pense à des candidats qui sont à 25% d'intention de vote, je pense à Emmanuel Macron, François Fillon qui va encore plus loin et qui, s'il n'avait pas eu d'affaires sur le dos, serait probablement en tête des sondages. Pourquoi les Français n'entendent pas vos arguments, que non, le problème c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital? Philippe Martinez.
Bon, vous êtes un peu sévère parce que...
Il est vraiment à 26% Emmanuel Macron, je vous assure, c'est
oui,
pas
puis,
moi.
Puis la CGT est quand même assez haute, pas dans les sondages. C'est la première centrale syndicale en France. Et puis,
pas pour le temps, il paraît, mais on verra.
Bah, vous me réinviterez.
C'est pas le débat.
C'est dans un mois, vous me réinviterez, on en reparlera si vous voulez.
Avec plaisir.
D'accord, je reviendrai. Après, ceci dit, quand on est dans une période de crise comme on est, avec un chômage aussi haut, il y a des arguments qui sont plus faciles à entendre, parce qu'il n'y a pas que Macron qui est à 25%. Il y en a une autre.
Je n'ai pas voulu la citer,
mais elle aussi. Et donc, il y a des arguments, malheureusement, qui passent mieux. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on use de la salive, on va discuter avec les gens, parce qu'il faut convaincre.
Mais en tant que journaliste, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Martinez?
Oui, on se pose la question tous les jeudis. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ces analyses, ces alternatives, elles ne percent pas dans le débat? Je pense qu'il y a énormément de victoires... culturel depuis 30 ans des néolibéraux, à commencer par le terme justement coût du travail, quand on nous dit qu'on veut réduire le coût du travail, ça veut dire qu'on veut réduire les salaires, par exemple. Mais c'est une reformulation.
Diminuer les cotisations patronales, etc.
Voilà,
etc.
Et puis tout le monde a un oncle qui est artisan, qui travaille dans une PME, qui a trop de charges. Ça, c'est aussi c'est comme la mie noire. On a tous des espèces de victoires comme ça de la pensée unique qui vient imprimer en fait une idée qui est aussi un modèle intellectuel néolibéral.
Alors, au-delà de la question de la robotisation numérique, quelles sont les mutations du travail aujourd'hui, du marché du travail? Je pense aux contrats. Aujourd'hui, 86% des contrats sont des CDI. C'est quand même pas mal. Pourtant, les jeunes, par exemple, sont sous-représentés dans la part des salariés en CDI, ce qui témoigne d'un réel changement structurel. Donc, les gens qui entrent dans le marché de l'emploi n'ont pas de CDI. Emmanuel Decaisse, vous avez envie de réagir avant la fin de ma question. Allez-y.
Oui, il ne s'agit pas du tout d'un changement structurel. En fait, c'est que les CDD sont utilisés de manière frauduleuse comme des périodes d'essai. Comme les jeunes sont plus souvent dans des premiers emplois, ils sont plus souvent... en CDD. C'est pas parce qu'il y a une évolution vers le CDD.
Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de travailleurs indépendants.
Là, il y a une chose qui est... On a eu une montée des contrats. Alors ça, c'est pas par rapport aux jeunes ou pas aux jeunes. On a eu une montée des contrats précaires. Une montée dans les années 80, 2000, depuis, ça stagne à peu près. On a eu une montée des contrats précaires que beaucoup d'analystes ont interprété comme une évolution de l'emploi. L'emploi qui irait vers une parcellisation des emplois, avec des emplois plus courts, qui bougent plus vite. En réalité, cette vision du monde s'est révélée absolument fausse.
Pourquoi c'est faux, cette flexibilisation de l'emploi?
Et oui, alors qu'on a l'impression que c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est faux parce qu'on a des statistiques qui s'opposent complètement à ça. Il s'avère qu'en France, et très peu de gens le savent, il s'avère que l'ancienneté moyenne est croissante. Et c'est vrai dans tout l'OCDE. Les gens ont des emplois, en moyenne, de plus en plus longs. Ce qui est une surprise par rapport à ce qu'on nous raconte d'habitude, puisqu'on a de plus en plus de contrats précaires et des emplois de plus en plus longs. Comment est-ce qu'on peut avoir les deux choses à la fois?
C'est quelque chose de vraiment bizarre.
Eh bien, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Ça signifie simplement que de plus en plus, on utilise avec des statuts précaires, avec des contrats précaires, des salariés qui travaillent sur des emplois long. En fait, on est dans une espèce de fraude, vous voyez ce que je veux dire? C'est une fraude montante, je vous emploie, et vous êtes tout le temps sous contrat précaire, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois.
Mais dans le même emploi.
Mais vous êtes dans le même emploi, vous êtes dans un emploi long. Et ce qui fait que vous avez l'ancienneté qui est croissante, et les contrats précaires qui augmentent. En fait, ce qui est en train de se démontrer, c'est qu'on a besoin de contrats longs, c'est assez logique. L'évolution de la société, c'est l'évolution vers une société de la connaissance, une relation, du relationnel, des emplois, c'est ce que vous avez dit, des emplois qualifiés. Et donc toutes ces choses-là sont des choses qui demandent de l'ancienneté. Donc en réalité, l'emploi long se développe, et ce qui se développe, c'est la fraude. Et ce qui est terrible, vous comprenez, c'est que du fait de ce développement de la fraude, on a des gens qui s'en saisissent pour dire « Regardez, l'emploi devient de plus en plus précaire ». Alors qu'en fait, c'est faux. C'est la fraude qui devient de plus en plus fréquente.
Donc, l'ubérisation, tout ça, c'est un mirage, des éléments de langage, de médias, mais ne mélangeons pas tout.
Alors, par ailleurs, il existe autre chose qui est l'apparition d'un certain nombre d'emplois par des plateformes numériques. Là, je vous parlais de grandes quantités.
C'est des emplois très précaires, ça revient à la question.
Attendez, ne nous méprenons pas. Est-ce que la précarité existe ? Oui. Est-ce qu'il existe de nouvelles formes de précarité ? Oui. Est-ce que ces précarités-là peuvent fonctionner avec des plateformes numériques ? Oui. Est-ce que c'est très visible ? Oui. Est-ce que c'est très, très intéressant ? Oui aussi, puisque c'est quelque chose d'assez nouveau et donc on s'y intéresse particulièrement. Alors évidemment, au niveau des chiffres que je vous cite, comme ces emplois ubérisés, quoique très intéressants et très étudiés, ne représentent qu'un tout petit pourcentage en réalité des emplois globaux, ça ne se sent pas au niveau des statistiques, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'empêche pas que c'est très intéressant, qu'il faut traiter ces questions, que ce sont des questions qui se développent.
Ça crée des situations très très problématiques, pardon.
Et ça crée des situations...
pour les gens qui sont concernés.
Bien entendu. Et donc il faut absolument essayer de trouver un certain nombre de solutions qui dépendent d'ailleurs du type d'emploi dont on parle, parce que par les plateformes numériques, vous avez toutes sortes d'emplois. Bien sûr, on pense aux chauffeurs d'Uber, mais vous avez aussi les mini-jobs, vous avez plein de choses qui sont assez différentes et qui demandent des traitements différenciés. Pour les ubériser, le plus simple est une forme de requalification, par exemple.
Et Wamenak, vous, il y a quelques semaines, vous avez publié un article qui s'appelle... qui nous a beaucoup interpellés parce que c'est dans un dossier qui était consacré à la jeunesse, et donc nous, à Radio Campus Paris, la jeunesse, ça nous intéresse, c'est l'alternative à l'ubérisation, c'est nous. Donc vous êtes allé à la rencontre de personnes qui forment le mouvement coopératif. Et qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ?
Ouais, c'est les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi. C'est pas une idée qui est si neuve, elle s'installe un peu plus grâce à des lois notamment qui les ont reconnues, mais c'est un mouvement qui est ancien et qui... part du principe, c'est un peu comme le portage salarial, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, on peut, pour avoir des droits, une protection sociale, se salarier. Donc on va remettre son chiffre d'affaires à une entreprise qui va vous faire une fiche de paye, payer les cotisations. Ça existe partout, sauf que le mouvement coopératif prend ce fonctionnement et y ajoute la dimension collective et la dimension coopérative, c'est-à-dire l'entraide, mais aussi la structure, l'intelligence et l'accompagnement pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et du coup, là, on a des gens qui viennent avec un projet de vie et qui, ça résonne énormément avec tous les débats qu'on a eu, parce que c'est des gens qui veulent sortir, qui ont fait des petits boulots, qui, comme tous les jeunes, ont expérimenté ces expériences qui sont humiliantes, les premières expériences d'un vie du travail où on s'aperçoit que dans une entreprise, c'est surtout se taire et faire ce qu'on nous demande avant de réfléchir. Et, dans certaines de ces formes, il y a parfois, quand on le salariat enferme, enfin voilà, c'est clair.
I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space.
Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go?
thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold.
C'était The XX avec On Hold sur Radio Campus Paris.
Win, the yes needs the no to win.
Place publique, l'émission politique sans langue de bois de Radio Campus Paris.
Again, the no.
On est de retour dans Place publique pour parler de travail avec Philippe Martinez, Emmanuel Docquès et Erwan Manac. Métro, boulot, dodo, et si le travail pouvait aussi nous rendre heureux. Camille est dans le studio pour nous parler du bonheur au travail. Salut Camille.
Salut Dania. Et oui, on se rappelle l'étymologie du mot travail en latin, souffrance. C'est quand même pas très encourageant, mais enfin. Tout d'abord, faisons un bref état des lieux en France. Selon une étude de l'IFOP en 2016, 75% des Français sont quand même heureux au travail. C'est plus qu'il y a 4 ans, mais ça veut quand même dire qu'il y a un travailleur sur 4 qui n'est pas heureux, voire malheureux quand il va au boulot. Évidemment Dania, je te vois arriver, tu vas me demander, mais pourquoi ?
Mais oui, pourquoi ?
Excellente question, Dania. Eh bien, pour mieux comprendre ce qui nous rend heureux, il est intéressant de regarder quels profils semblent les plus heureux au boulot. Eh bien, ce sont les artisans commerçants, suivis de près par les professions libérales et les cadres supérieurs, entre 83 et 79%. Ce clivage avec le monde des salariés vient, selon l'IFOP, non pas du degré de rémunération, ou bien de la mais bien de la diversité des tâches et du degré d'autonomie du travailleur, bref, des conditions et de la nature même de son travail. Lieu de travail, horaire, avantages, relations avec les collègues, ce sont ça les critères que les Français désignent en grande majorité pour parler de leur bien-être, bien avant de parler salaire.
Du coup, les Français sont plus heureux s'ils se sentent plus autonomes et plus passionnés.
Mais complètement, d'ailleurs, certaines entreprises l'ont bien compris et tâchent de redonner du pouvoir aux salariés de sorte qu'ils se sentent davantage impliqués et libres dans leurs tâches. On les a appelées les entreprises libérées. Dans ces bureaux, beaucoup de décisions prises en collectif et le chef d'entreprise s'efface au point de n'être quasiment plus qu'un animateur d'entreprise à la manière d'un animateur de colo, plutôt qu'un chef. On se tutoie, on se réunit, on travaille en autonomie. Résultat, des entreprises plus performantes puisque les salariés se donnent davantage à leur activité.
Mais on imagine bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça dans toutes les entreprises.
Eh bien non, tu imagines bien que cela suppose que chacun joue le jeu, patron comme employé. Mais j'ai bien noté une réponse d'un patron à son salarié qui m'a marqué. On ne peut pas obliger qui que ce soit à être heureux. En revanche, on peut créer toutes les conditions pour qu'il se sente bien dans son travail. Ce patron d'une boîte de marketing emploie une quinzaine de personnes à Strasbourg. Il était interrogé pour un documentaire de la série Tout compte fait. Il débourse en moyenne 1000 euros par an pour chaque salarié pour son bien-être. Qu'il s'agisse de cours de 20 minutes de yoga par jour ou de 15 minutes de massage fait par une professionnelle chaque semaine.
Incroyable.
Il donne aussi la possibilité à ses employés de moduler leurs horaires de manière à pouvoir accomplir des micro-rêves comme l'une de ses employées qui, tous les jours, part à 16h du travail pour monter à cheval une heure. Écoutez-la.
C'est un gagnant-gagnant. Forcément, s'il nous laisse partir tous les soirs à 4h, moi je me verrais pas à côté de ça en profiter et rien faire du tout le reste du temps. Enfin, ça a l'effet inverse. Il nous donne, il nous fait confiance, donc nous on fait pareil quoi, de notre côté.
Donc si tu donnes plus de temps et de bien-être à tes employés, ils sont forcément plus performants.
Ah, pour le tout coup, si tout le monde joue le jeu, oui. D'ailleurs, ça ne s'est pas toujours passé comme ça dans cette boîte. Le patron a fait un burn-out. Il était plus heureux de mettre la pression à ses employés, d'avoir ce statut de leader mal aimé. Et c'est lui qui a réuni son personnel un jour en leur demandant comment chacun pourrait se retrouver, si ce n'est du bonheur, au moins du confort au travail, puis qui sait, du plaisir. Aujourd'hui, on a cette chance de vivre tout de même dans une époque où la pénibilité physique du travail s'est améliorée grâce aux machines, à Internet, au numérique. Et puis, Je pense qu'on peut tout de suite affirmer aussi qu'on aura toujours besoin de travailleurs, technologie ou pas, pour les penser, pour les commander, pour s'en servir, pour la maintenance, etc.
Et est-ce que ça va changer dans notre... Qu'est-ce que ça va changer, pardon, dans notre manière de travailler, ces nouvelles technologies ?
Bah, quelques petites choses. Avant tout, il n'est plus nécessaire véritablement de travailler dans un bureau avec ses collègues de travail lorsqu'on exerce une e-activité. L'organisation du travail se fait donc de plus en plus en réseau et à distance. On ne se déplace plus que par besoin, ce n'est pas systématique. On n'est plus obligé non plus de faire des heures de bureau du même coup. Résultat, la frontière entre vie privée et vie professionnelle, attention, devient de plus en plus poreuse.
Aussi, ouais.
Cela demande de s'automotiver, de s'auto-ménager, de s'aménager son emploi du temps, d'avoir de la rigueur. Ça va même plus loin, c'est la manière de penser le travail qui en vient à être complètement chamboulée en fait, parce que le travail n'est plus considéré comme une contrainte du même coup.
Qu'est-ce que c'est le travail alors si ce n'est pas un impératif ?
Je vais reprendre les mots de Yves Chassard qui a essayé de penser le travail de demain. Il disait « Ce serait innover, créer avec d'autres, être en réseau, proposer des idées, concevoir et réaliser des objets, projets, coordonner des activités, acheter mille et une choses, bref, vivre. »
Merci beaucoup. Camille, alors le bien-être au travail pour vous, c'est central ?
Le bien-être, c'est central. Le bien-être est central partout.
Le travail,
partout.
C'est le sujet de l'émission.
Le bien-être est central au travail comme partout. Et les gens qui sont non épuisés, qui sont autonomes dans leurs tâches et qui ont des libertés, et pourquoi pas, qui sont plus ou moins en autogestion, vivent plus heureux et vivent de manière plus agréable. Et ils sont aussi plus productifs. Et tout ça est effectivement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe, malgré tout ça, malgré cette tendance naturelle à une plus grande productivité potentielle, de la plus grande autonomie et de la plus grande liberté au travail, il existe des situations, malheureusement, qui sont un petit peu plus sombres que celles-là, notamment dans les services qui sont comme des services à la chaîne, ou dans certains métiers qui sont particulièrement durs. Et on peut se demander comment il se fait que dans certains cas, le pouvoir finalement un peu hiérarchique, un peu à l'ancienne, continue non seulement à exister, mais parfois se renforce, alors qu'il est peu productif. Eh bien, la réponse est en fait finalement assez simple, c'est que tout n'est pas une logique de productivité. Vous avez aussi une tendance du pouvoir à vouloir continuellement se renforcer, même si ce n'est pas productif. C'est pour ça qu'il nous faut des règles aussi, pour limiter le pouvoir dans sa pulsion naturelle à l'augmentation, aussi pour augmenter la productivité.
Alors, elle nous a rejoint dans le plateau. Salut, Gabrielle.
Salut.
Alors, tu es là pour poser des questions très juridiques à nos invités, puisque tu es la spécialiste en droit.
Je vais essayer. Est-ce que je peux commencer par est-ce qu'on a besoin de modifier le droit du travail ? Est-ce que le code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce qu'il est dépassé ?
Je dirais pas dépassé, il est abîmé. Alors, il est à la fois abîmé et dépassé. Certaines dispositions ne correspondent plus aux problématiques actuelles et il convient effectivement d'essayer d'inventer des règles nouvelles. Mais c'est aussi un code du travail qui a subi une quantité de réformes, de réformes, de réformes. On n'est plus du tout dans un code du travail simple. On est dans un code du travail qui est devenu très, très compliqué par la multiplication d'exceptions, de contradictions, de petites choses qui abîment les droits fondamentaux des travailleurs et qui, en même temps qu'elles les abîment, abaissent leur protection. Donc, on a un abaissement dans la complexité et donc, il faut pas seulement ravaler la façade, il faut vraiment reconstruire quelque chose de propre parce qu'on en a besoin.
Rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Vous partez du même constat que par exemple les partisans de la loi travail, c'est que le code du travail est beaucoup trop lourd, beaucoup trop illisible, chaotique, et en même temps il faut le modifier, il faut en proposer un autre. Vos conclusions sont totalement différentes.
Si je peux me permettre, après un spécialiste.
Allez-y, Philippe Martinez, évidemment.
Syndicaliste. Moi, je pense que le paradoxe, c'est que tous ceux qui reprochent au Code du travail d'être trop compliqué, et en fait, effectivement, il faut le simplifier, c'est ceux qui ont contribué à sa complexité par une multiplication de dérogations et de lois qui ont dérogé au Code du travail, qui rend le Code du travail aujourd'hui aussi épais et apparemment aussi illisible. Donc, c'est ce paradoxe-là qu'il faut mettre en avant. C'est ceux qui reprochent au Code du travail d'être trop épais qui l'ont rendu si épais. Et ça, c'est quand même un problème.
Emmanuel Decaisse.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a le même discours de départ. Le discours est trop compliqué, il faut simplifier. Mais ce qui est fascinant, c'est que notre discours, nous, on le poursuit par la possibilité d'une véritable simplification. Alors que ce qui était marquant dans la loi travail, c'est qu'on nous a raconté « c'est trop compliqué, donc il faut réformer ». Et on nous a fait la loi travail qui, objectivement, rend les choses beaucoup plus compliquées qu'avant. Le code du travail a augmenté en volume avant, après, c'est considérable. Ils ont refondu toute la partie sur le temps de travail et ils ont augmenté en volume de 25% ce volume. Donc ce qui est terrible, c'est que souvent on a le même discours au départ, il faut simplifier, et à l'arrivée, vous en avez qui non seulement ne simplifient pas, mais qui rendent les choses encore plus complexes. Alors est-ce que c'est un mensonge d'État ou est-ce que c'est une hypocrisie?
En tout cas, c'est ce qu'on entendait dans les médias, c'était l'argument premier. Oui, oui. Et je pense que quand il y avait par exemple des syndicalistes sur les plateaux de télé, des partisans de la loi travail, ceux qui ont fait la loi travail leur disaient, mais est-ce que vous l'avez lu? Il est bien trop compliqué, vous pouvez même pas le comprendre. Et d'ailleurs, ce que vous dites, il y a aussi un souci de démocratisation, c'est-à-dire que le code du travail n'est pas compréhensible des citoyens, et c'est problématique déjà.
Mais regardez, la loi travail à elle seule, en volume, est aussi grosse que l'ensemble du code qu'on a réécrit. C'est-à-dire qu'ils nous ont, au nom de la simplification, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est trop compliqué, donc au nom de la simplification, on a un bon argument pour légitimer quelque chose. Mais ce qu'ils font ensuite devrait être dans le même sens, mais c'est exactement le contraire.
Emmanuel Dequette, c'est quoi un code du travail plus simple et plus protecteur? Parce que c'est ce que vous défendez.
Ah bon, concrètement. Alors concrètement, il suffit de le lire, il a été écrit, il sera en librairie
le
22 mars. Et en tout
dans
cas,
les grandes lignes.
Et en tout cas, ce qui est dans les grandes lignes, un code du travail plus simple, c'est un code du travail dans lequel on a des règles qui comprennent un peu moins d'exceptions. Quand vous avez une règle de droit qui est légale, l'objectif de faire une règle de droit légale, c'est pour faire une règle de droit qui s'applique à tous. Donc ça ne sert à rien d'avoir à la fois une règle légale et ensuite une myriade d'exceptions. Si vous pensez qu'il faut plein de statuts particuliers, vous faites plein de statuts particuliers, vous ne mettez pas une loi générale.
C'est d'ailleurs le principe de la loi travail, parce que derrière l'idée qu'il fallait simplifier le code du travail, la vraie raison, c'était qu'il fallait supprimer le code du travail. Et la loi travail, en réalité, c'est qu'il y ait un code du travail, ou en tout cas des règles du travail différentes, selon l'entreprise. C'est bien, nous on a comparé ça au code de la route, c'est comme si dans chaque département français, il y avait un code de la route différent, c'est ça la loi travail, et donc chacun fait sa règle là où enfin, ceux qui dirigent les entreprises font leur règle,
On pense à l'inversement de la hiérarchie des normes,
par exemple, y compris, c'est souvent les grandes entreprises qui vont faire la règle pour les petites entreprises, parce que le lien et la relation commerciale qu'il y a entre les grandes entreprises et les petites entreprises fait que c'est le gros qui commande et le petit qui s'adapte. Et quand il n'est pas d'accord, on lui dit « t'as plus de marché et donc t'as plus de boulot et tu fermes ta boîte ».
Gabriel.
Justement, donc, cette modification, elle n'est pas forcément idéale. Mais souvent, l'argument ressort que, en fait, il n'y aurait qu'un seul modèle, une seule voie de modification, ce serait celle qui marche. Il n'y aurait pas d'alternative. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a plusieurs types de modifications du code du travail?
Il y en a plusieurs. Alors, on en a fait une. Mais on en a fait une, on était seulement 20 et on était tous universitaires, ce qui fait que, bien sûr, on a consulté un peu partout des tas de personnes pour essayer de nourrir un petit peu notre réflexion, mais on n'était que 20 et on était d'accord sur rien. Donc et pourtant, on était tous avec un point de départ, finalement, dans la même zone, vous voyez ce que je veux dire, on était tous d'accord pour dire qu'il faut quand même des lois, que c'est utile, que la protection des travailleurs, ça fait quand même sens dans une période particulièrement difficile. Donc on avait, si vous voulez, un point de départ, mais quand on rentrait dans la technique, on était d'accord sur rien, on a discuté sur tout, on a tranché dans un sens, parfois dans l'autre, on a parfois voté. L'idée de consensus, comme quoi il n'y aurait qu'une seule solution, c'est une idée qui est profondément antidémocratique, c'est une idée autoritaire. Il n'y aurait qu'une solution, mais alors tous derrière un chef, on ne discute même plus. Tout ceci est faux. On est dans une société où il y a beaucoup...
Le consensus, vous avez produit ce livre, alors comment vous avez fait, comment vous avez...
On a voté, on a discuté, on est parfois tombé d'accord, parfois on n'était pas d'accord, parfois c'était des votes très très serrés, certaines décisions ont été prises vraiment de très très peu. Je suis de ceux qui pensent qu'en démocratie, on doit avoir une pluralité d'opinions. Et ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule solution, d'abord mentent, et ensuite ne sont pas vraiment démocrates. En réalité, dans la démocratie, c'est qu'il y a plusieurs décisions, et on peut en débattre.
Erwan Manak, un code du travail plus consolidé, c'est important?
Oui, alors là, c'est pas du tout... je ferai pas du tout mieux que Emmanuel Dequest. Ce que je pense, c'est qu'il y a déjà un travail de désintoxication à faire sur la loi travail. C'est que, c'était assez intéressant de voir comment ils ont un petit peu quand même abandonné l'idée que c'était pour simplifier. Parce que quand on a vu la tête du texte, ça passait plus. Donc ils ont essayé de présenter la chose sous d'autres arguments, comme par exemple les compensations, les droits nouveaux, le compte personnel d'activité, des choses comme ça. Pour le côté désintox, je pense que tout ce langage, la simplification, tout, ça cache en fait la réelle volonté qui est une ligne directrice très forte depuis des années et qui est très présente dans le programme d'Emmanuel Macron et de la droite, qui est réduire le entre guillemets coût du travail. Et c'est intéressant de ce point de vue-là de regarder les préconisations de la Commission européenne quand elle fait son semestre européen, c'est-à-dire qu'elle regarde un peu les politiques économiques qui sont faites dans les États membres et qu'elle fait des préconisations pour la France. Elle dit là la grosse cible maintenant à venir, c'est le salaire minimum. C'est le frein numéro un à l'activité, etc. Ça, c'est vraiment l'idée motrice pour les libéraux, c'est de dire
revenir
quand on pourra payer un euro les gens, tout le monde aura du travail, ce sera génial, ce sera la liberté d'entreprendre la plus totale. Et donc, on peut s'attendre à des attaques de ce point de vue-là. Et je pense que la loi travail, c'était déjà clairement ça. Les dérogations qu'on a au code du travail, par des chemins de traverse un peu alambiqués, arrivaient au fait que, puisqu'on paye un peu moins cher les heures supplémentaires, en fait, c'est le coût du travail qui est baissé, c'est le salaire qui est baissé. Et on va y arriver, et je ne sais pas par quel biais et sous quel artifice on va essayer de nous le présenter, mais en tout cas, c'est l'objectif de...
Et ce que j'entends, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a que deux modèles, deux voies, en fait. Soit on a un modèle protecteur, donc avec un code du travail solide, avec un salaire minimum, mais un chômage de masse, parce que c'est un peu le cas en France, il a un peu diminué. Philippe Martinez n'est pas du tout d'accord avec moi ce soir.
Pas du tout.
Un chômage de masse, où on a les systèmes où il n'y a pas beaucoup de chômage, mais en même temps énormément de travailleurs pauvres.
Non, mais moi je pense
qu'il n'y a pas une autre voie.
Enfin, il faut des règles communes pour tout le monde. Sinon, c'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'était ce qui se faisait au 19e et au 18e siècle. Donc, il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles. Alors, on peut d'ailleurs discuter pourquoi, au niveau mondial, les règles ne sont pas plus communes. Parce que, évidemment, si on nous compare au-delà de la Scandinavie, de l'Allemagne, si on nous compare à la Chine, par exemple, là, on ne joue pas dans la même cour, comme on dit.
C'est donc, tant mieux, d'une certaine manière.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut des règles collectives. Et donc, c'est indispensable. Et après, il y a des adaptations à faire selon le type de travail, ça a été rappelé, la pénibilité du travail, le travail intellectuel ou pas. Mais il faut des règles collectives. Sinon, chacun, et c'est le principe de la loi travail, c'est que chaque patron, et j'insiste beaucoup, c'est souvent les plus gros qui dictent la loi à tous, et là, on est mal parti parce que, eh bien, pour une même qualification, et je pense à de nombreux jeunes qui sortent avec leur diplôme, eh bien, pourquoi avec un bac plus 5, on n'aurait pas le même salaire selon l'entreprise? Il faut des règles collectives.
Parce que pour la question, par exemple, du chômage, enfin, on lance les chiffres du chômage un peu comme ça, au hasard, alors que ça cache énormément d'inégalités. Vaut mieux pas vivre en banlieue et être d'origine étrangère.
C'est autre chose.
Donc, la question de la discrimination à l'emploi est quand même assez centrale.
Mais la discrimination, elle existe. Ceci dit, c'est parce que là aussi, on veut diviser, opposer un certain nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais ce n'est pas pour ça que c'est le code du travail qui serait la cause du chômage.
Ah non, c'est pas ce que je dis là. Je rebondissais sur le chômage. Dire aujourd'hui on a 9,6% de chômage, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Mais
on
vous a donné quelques pistes, enfin, tous autour de la table. Si on travaille moins, quel que soit d'ailleurs...
Les 32 heures, j'entends bien.
Vous avez entendu. Quel que soit le travail d'ailleurs, parce qu'il y a du travail intellectuel qui est très pénible. Hein. Les suicides, moi je viens de chez Renault, au Technocentre, que des ingénieurs et cadres. Il y a eu des suicides aussi, donc la pénibilité du travail, c'est du travail manuel et du travail intellectuel.
Vous parlez également de la jeunesse, Erwan Manac, je vous fais réagir sur votre article qui revient sur le phénomène, sur le mouvement « On vaut mieux que ça ». Il y a un an, pendant le mouvement contre la loi travail, des youtubeurs se sont réunis pour, faire médiatiser tous les témoignages autour du monde du travail. Qu'est-ce que ça donne un an après « On vaut mieux que ça »
Ça donne quelque chose de très intéressant. Il y a 700 témoignages qui, bien sûr, donnent beaucoup la parole à des jeunes, mais pas que. Toutes les classes d'âge, tous les secteurs d'activité, et tous les types de souffrances. Il y a des gens qui parlent de leur exclusion, ils sont hors du marché du travail et ils racontent leur vécu. Il y a des gens qui... Et vraiment, c'est extrêmement intéressant, je vous invite à aller regarder ce qui s'est fait. Mm-hmm. Ce qui est intéressant en plus, du point de vue de la mobilisation, c'est que ça a commencé un peu comme une mobilisation numérique, mais qu'en fait, ça a largement dépassé. D'ailleurs, les youtubeurs en question disent qu'ils ont été eux-mêmes dépassés par l'ampleur de ces témoignages qu'ils recueillaient. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est une façon... Je pense que ça me fait un peu penser à Nuit Debout. puisque c'est aussi une façon complètement peut-être que la vie de Phil Martinez est intéressante là-dessus, complètement désintermédiée de prendre la parole. On s'exprime. Et d'ailleurs,
on passe plus par les syndicats, par exemple. Hein.
Ouais, j'ai participé peut-être à Nuit Debout, ouais. Donc on passe par les syndicats. Ah,
mais d'ailleurs, une des toutes premières scènes, je pense que c'est quelque chose de puissant, mais se pose la question de la traduction dans les faits et de l'efficacité de ces moyens de lutte. Et une des toutes premières scènes à laquelle j'ai assisté, le premier soir de Nuit Debout, c'est quelqu'un, la sono n'était pas encore branchée. Il était 18h30, rien ne se passait encore, mais les gens étaient comme ça, ils avaient une envie irrépréhensible de parler, d'agir et de se réunir. Et quelqu'un a lancé comme ça à travers la foule, on peut le faire sur Internet, on peut le faire dans la rue. Et pour moi, ça c'est un peu l'ADN de Nuit Debout, c'est vite retrouvons-nous, mais... Et puis se pose la question du après, puisque dès le début on a commencé à se poser la question du après, qui pour moi est très intéressante.
Philippe Martinez, quel marché du travail demain pour les jeunes ?
Il faut que premièrement on revienne à des règles plus simples. Il faut que les jeunes, tous les jeunes, parce que c'est 85% des contrats qui sont précaires quand on rentre dans une entreprise, on repasse par des périodes d'essai. Et puis des périodes d'essai limitées, puis si on travaille bien, eh ben on est embauché. Moi, je connais des jeunes qui travaillent depuis 5 ans au même poste. Au bout de 5 ans, on sait si quelqu'un a fait l'affaire ou pas. Donc il faut revenir à du CDI, des périodes d'essai. Il faut libérer du travail pour que la jeunesse y trouve sa place. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'affirment certains, si on travaille jusqu'à 65 ans ou 70 ans, vous voyez, les jeunes vont encore attendre longtemps. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut regarder et ne pas opposer les jeunes et les moins jeunes. Travailler moins, laisser les plus anciens partir faire d'autres choses et puis ouvrir en grand les portes à la jeunesse.
En tout cas, une carte à la CGT aussi.
Moi je dis la CGT, l'essayer c'est l'adopter. Donc il faut, nous aussi on va inventer des périodes d'essai. Il y a beaucoup
parce
de jeunes.
Parce que il y a un portrait qui a été fait du syndicaliste, comment dire, un peu type. Et il est plutôt âgé en fait. Et les jeunes se tournent de moins en moins vers les syndicats. On est à 11%. C'est pas.
Je trouve que c'est plutôt la CGT qui se tourne pas assez vers les jeunes. Et je vous ai dit qu'on vient de créer un syndicat chez les jeunes parce que là c'est des jeunes, des athlètes à vélo, livreurs. Les Uber viennent de créer leur syndicat CGT. Donc on a une responsabilité à la CGT d'aller plutôt voir les jeunes, y compris dans les universités, au lycée professionnel, parce que c'est eux les salariés de demain.
Merci beaucoup Philippe Martinez d'avoir été parmi nous pour la CGT ce soir. Merci Emmanuel Decaes. Rendez-vous donc le 22 mars en librairie pour votre proposition de code du travail. Vous avez également publié Voyage en misarchie.
Passionnant, formidable.
Je n'en doute point, un essai pour tout reconstruire. Donc c'est le sous-titre du livre aux éditions du Détour.
Oui, c'est pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'un code du travail ne suffira pas. Il y a un moment où il faut réfléchir pour de vrai. Il faut réfléchir pour de vrai à quelle société on veut. Et ça, ce n'est pas seulement un changement de code du travail. On veut plus. Et c'est l'objet de ce livre.
Merci beaucoup Erwan Manak d'avoir été parmi nous. Merci à Elsa Landard pour la coordination, Héloïse et Gabriel pour leurs questions, Camille et Martin pour les chroniques, et évidemment le meilleur pour la fin, Paul-Henri à la réalisation. Le mois prochain dans Place Publique, il sera question d'Europe. Gros dossier également, il y aura du débat. Hein. On vous laisse avec l'équipe de La Souterraine sur Radio Campus Paris. Bon week-end à tous et bonne soirée.